Fin du chapitre 6. Voilà ce que cette vieille radoteuse comptait entre deux vins à la belle captive. Et moi qui écoutais à quelques pas de là, je regrettais amèrement de n'avoir ni stylet ni tablette pour coucher par écrit cette charmante fiction. En ce moment, les voleurs rentrent chargés de butin. Ils paraissaient avoir soutenu un rude combat, ce qui n'empêcha pas quelques-uns des plus résolus de se montrer impatients de repartir. Ils avaient à rapporter, disaient-ils, un reste de leur prise qui était resté caché dans une caverne. Les blessés pouvaient demeurer au logis et panser leurs plaies. Là-dessus, ils dévorent à la hâte leur dîner, et les voilà qui repartent, nous emmenant mon cheval et moi, et ne nous épargnant point le bâton. Après avoir tourné, viré, monté, descendu, cent et cent fois, nous arrivons vers le soir à une caverne. On nous charge de quantités de paquets, et sans nous laisser souffler, on nous fait retourner sur nos pas en toute hâte. Leur précipitation était telle qu'à force de me rouer de coups, ils me firent donner contre une pierre placée le long du chemin et je m'abattis. Une grêle de coups me fit relever à grand-peine, tout éclopé de la jambe droite et du sabot gauche. L'un d'eux se mit à rire. « À quoi bon nourrir plus longtemps ce bonnet rinté que voilà boiteux par-dessus le marché ?»« Oh, sur ma parole, reprit un autre, depuis que cette malencontreuse rosse a mis le pied chez nous, rien ne nous a réussi. Nous avons gagné Force Orion et perdu les meilleurs de notre monde. »«
Ce dont je puis répondre, ajoute un troisième, c'est qu'aussitôt qu'il aura tant bien que mal rapporté son bagage à notre montagne, j'en ferai dégringoler la tête la première pour faire fête au vautour. »
Mes doux maîtres discouraient encore sur l'espèce de mort qu'il me réservait, que déjà nous réservions à la caserne, car la peur m'avait donné des ailes. En un clin d'œil, les fardeaux sont à bas, et sans plus inquiéter que je vive ou que je meure, ils s'adjoignent leurs camarades blessés et terminent le transport à bras ennuyés, disaient-ils, de la lenteur de leurs bêtes de somme. Cependant, mon inquiétude n'était pas médiocre en songeant aux menaces dont j'avais été l'objet. « Eh bien, Lucius, me disais-je, qu'attends-tu? Ces brigands ont décidé ta mort, une mort affreuse, et les préparatifs en seront bientôt faits. Tu vois ces angles saillants, ces pointes de rocher. Tes membres vont être mis en pièces avant de toucher le sol, car avec toute ta magie, tu as bien su prendre de l'âne sa forme et ses misères, mais non son cuir épais. Ton épiderme est toujours aussi mince que celui d'une sangsue. Que ne prends-tu quelque parti énergique pour ta délivrance, tandis qu'elle est possible ? L'occasion est des plus belles. Cette vieille n'a que le souffle. Est-ce une surveillante comme elle qui t'arrête ? Une ruade de ton biais boiteux va t'en faire raison. Mais où fuir, où trouver asile ? Sotte appréhension, voilà bien raisonner en âne. Est-ce que le premier passant ne va pas se trouver heureux de t'avoir pour monture ? Cela dit, mon effort rigoureux, je romps mon licou et je me mets à jouer les quatre jambes. Mais mon mouvement n'avait pas échappé aux yeux d'épervier de la maudite vieille. Avec une résolution qu'on n'aurait attendue ni de son sexe ni de son âge, elle saisit mon licou dès qu'elle me voit en liberté et s'efforce de me retenir et de me rattacher. La perspective du traitement que me gardaient les voleurs me rendit impitoyable. Je lui appliquai une ruade qu'il étendit sur le carreau. Mais la malheureuse, toute renversée qu'elle était, se cramponne obstinément à la longe et se fait traîner quelques pas tout en hurlant pour obtenir main forte. Mais
Elle s'égosillait en pure perte. Nul n'était à portée, excepté la jeune prisonnière. Celle-ci accourt au bruit et voit, au spectacle mémorable, une Dircée en cheveux blancs que tirait un baudet en guise de taureau. D'une énergie toute virile, elle tente aussitôt le coup le plus hardi. Elle arrache la courroie des mains de la vieille, me flatte de la voix pour me faire arrêter, saute lestement sur mon dos et me fait l'étaler à toute bride. Moi, qui n'aspirais qu'à m'échapper et qui brûlais de sauver la jeune fille et qui, de plus, recevait d'elle quelque avertissement manuel de temps à autre, je me lançais au galop en vrai cheval de course, non sans essayer de donner de mon gosier pour répondre à sa douce voix. Quelquefois même, tournant la tête, comme pour me gratter le dos, je me hasardais à baiser ses pieds charmants. Enfin, poussant un profond soupir et s'adressant au ciel avec l'expression la plus fervente, « Grand Dieu, s'écria-t-elle, secourez-moi dans cet affreux péril. Et toi, fortune cruelle, cesse enfin de me persécuter. Ne suffit-il pas à tes autels des tourments que j'ai subis? Et toi, mon libérateur, mon sauveur, si par ton aide je puis revoir le foyer paternel, si tu me rends à mon père, à ma mère, au jeune homme charmant à qui je fus promise, mais quel remerciement ne te devrais-je pas? Combien je te choirais? Quelle chair je te ferais faire? Cette crinière sera peignée, parée de mes mains. Je partagerai en belles touffes le bouquet de ton front, les soies de ta queue, que je vois si mêlée, si rude, parce qu'on ne les lave jamais. Mais je veux, à force de soins, les rendre nettes et luisantes. Tu auras des colliers d'or, un harnais relevé en bossettes d'or. Tu brilleras de tous les feux du firmament. Tu ne marcheras qu'en triomphe, au milieu des acclamations publiques. Chaque jour, tu t'engraisseras d'amandes et de friandises offertes de ma propre main dans un tablier de soie. Mais c'est peu d'une nourriture exquise et d'un complet repos, de toutes les douceurs de l'existence. Je veux que ta vie soit embellie encore par les honneurs et la gloire. Je veux, par un durable monument, perpétuer le souvenir de cette aventure et de ma gratitude pour la bonté des dieux. Dans le vestibule de ma demeure, un tableau votif retracera l'image de notre fuite. On verra figurer, on entendra raconter, on lira dans les beaux livres, jusqu'à la postérité la plus reculée, la naïve histoire de la jeune princesse délivrée de captivité par un âne. L'Antiquité te comptera au nombre de ses merveilles. Ton exemple rendra croyable et le transport de Phrixus à l'eau de Bélier et le dauphin discipliné par Arion, et le taureau s'offrant pour monture à Europe. Jupiter a bien pu mugir sous la forme d'un bœuf. Qui sait si sous cette figure d'âne ne se cachent pas les traits d'un homme, d'un dieu peut-être? Et tandis que la jeune fille exprimait ainsi des vœux entremêlés de fréquents soupirs, nous arrivons à un carrefour. Là, s'emparant de la bride, elle s'efforce de me faire tourner à droite parce que c'était le chemin qui conduisait chez ses parents. Moi, qui savais que c'était dans cette direction que les voleurs étaient allés chercher le reste de leur butin, je résistais de toutes mes forces en lui adressant cette supplication muette. « Mais que fais-tu, malheureux enfant? Que fais-tu, c'est de précipiter dans un abîme? Où veux-tu me conduire? Mais tu vas consommer du même coup ta perte et la mienne. » Pendant que nous étions là, chacun tirant à soi comme dans une question de propriété ou de bornage, bien qu'il ne s'agît au fond que de prendre à droite ou à gauche,
nous voilà tout à coup face à face avec les voleurs qui revenaient chargés de leur butin. Ils nous avaient reconnus de loin au clair de la lune et salués de leur risée. L'un d'eux nous apostrophe en ces termes. « Où donc allez-vous si vite à pareille heure? Vous ne craignez pas les larmes ni les mânes dans vos excursions nocturnes? L'honnête fille va sans doute voir ses parents en cachette. Eh bien, nous allons lui donner bonne compagnie, lui montrer le plus court chemin. » Le geste suit, et d'une main saisissant mon licou, le voleur m'oblige à rebrousser chemin, non sans me faire renouveler connaissance, avec le bâton noueux qu'il tenait de l'autre. Ainsi, piteusement revenu à la perspective d'une mort certaine, je me rappelle tout à coup mon mal de pied et je recommence à boiter en hochant la tête. « Oh oh !» dit celui qui venait de me faire volte-face. « Te voilà clopinant et clopant de nouveau !»« Ces pieds pourris qui savent si bien fuir ne sauraient marcher. Tout à l'heure, tu aurais défié les ailes de Pégase. » Et pendant cette aimable plaisanterie qu'accompagnait le jeu de son bâton, nous arrivons à la palissade extérieure de la caverne. Là, nous vîmes la vieille pendue à la branche élevée d'un haut cyprès. Il la détache et, sans se donner la peine d'ôter la corde qui lui serrait le cou, la jette au fond d'un précipice. Ensuite, après avoir garrotté la jeune fille, il se jette en loups affamés sur le repas que le zèle posthume de la malheureuse vieille avait préparé pour eux. Tout en le dévorant, mes gloutons se mettent à délibérer sur notre châtiment et leur vengeance. Comme dans toute assemblée turbulente, chacun eut son avis. Celui-ci opinait pour que la patiente fût brûlée vive. Celui-là conseillait de la livrer aux bêtes féroces. Un troisième voulait qu'elle fût mise en croix. Un quatrième proposait de la démembrer par la torture. Du reste, le scrutin fut unanime pour la peine de mort. Alors un de la bande requiert le silence et s'exprime posément comme il suit. Nos principes, notre mansuétude à tous, ma modération personnelle, répugnent à la cruauté, à l'exagération des supplices. Point de bête féroce, point de gibet, point de bûcher, point de tenaille. Je ne voudrais même d'aucun de ces moyens violents qui précipitent la mort. Si vous m'en croyez, vous laisserez vivre cette jeune fille, mais de la vie qu'elle mérite. Vous n'avez sans doute pas oublié votre résolution bien prise à l'égard de ce Baudet, si paresseux à l'ouvrage, si diligent au râtelier, qui maintenant fait les clopés après avoir été l'agent et le complice de cette malheureuse. Que demain donc, sans plus tarder, on lui coupe le cou, qu'on lui ouvre le ventre, et qu'après en avoir retiré les entrailles, on y enferme cette créature qu'il nous a préférée, qu'on l'y couse comme dans un sac, de manière à l'emprisonner tout entière et ne laisser passer que la tête. Puis exposez-moi cet âne, farci de la sorte et bien recousu, sur quelques pointes de rocher au rayon d'un soleil ardent. Ce procédé réunit en substance toutes les judicieuses propositions qui ont été faites contre les deux coupables. L'âne y trouve une mort de longtemps méritée. La fille sera de fait livrée aux bêtes quand les vers rongeront ses membres. Elle subira le supplice du feu quand l'ardeur du soleil aura échauffé le cuir de l'animal. Les tortures du gibet quand les chiens et les vautours viendront lui arracher les entrailles. Mais énumérons un peu ce qu'elle aura à souffrir en outre. Vivante, habiter le ventre d'une bête morte, être suffoquée par cette infection cadavéreuse, se sentir minée par la faim et ne pouvoir faire usage de ses bras pour se donner la mort. À ces mots, tous, sans déplacement de personne, mais d'une commune voix, accèdent avec transport à cette proposition. Mes longues oreilles n'en avaient pas perdu un mot, et je pleurais sur moi-même, qui le lendemain ne devait plus être qu'un cadavre.